François Ribac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes compositeur de théâtre musical et sociologue, professeur de sociologie de la culture et de l'environnement à Burgundy School of Business à Dijon, Lyon et Paris. Et il y a quelques jours ou quelques semaines, vous étiez invité à l'Aéronef à Lille pour y donner une conférence intitulée « La musique face aux défis écologiques ». Un thème qui peut paraître étonnant parce que bon, la musique ne vient pas forcément à l'esprit quand on parle de pollution ou d'émissions de gaz à effet de serre. François Ribac.
Alors, quand on parle de défis écologiques, on parle de plusieurs choses. On parle d'abord des questions environnementales. Donc, celles-là, c'est effectivement celles qui sont liées, disons, en particulier aux questions de climat, de pollution, de choses comme ça, donc d'aspects environnementaux. Après, les défis écologiques, c'est pas uniquement des questions environnementales. C'est aussi des questions de transformation d'infrastructures, de façon d'aborder le monde et ainsi de suite. L'écologie, c'est pas la même chose que l'environnement. En gros, l'environnement, c'est l'approche environnementale, c'est une approche sur l'impact matériel des activités, et l'approche écologique, c'est une approche qui connecte, une approche systémique qui s'intéresse d'une façon globale au problème. Et donc, donc les défis écologiques, c'est pas uniquement des défis environnementaux. Voilà. Alors. Ensuite, pour répondre directement à votre question, de quoi on parle quand on parle de musique? D'abord, évidemment, si on se restreint, disons, à parler des œuvres, des artistes, on n'a pas l'impression qu'on est en face de quelque chose qui aurait un impact un matériel. Mais en réalité, la musique, c'est pas uniquement des artistes dans leur chambre ou des orchestres de musique classique. C'est des infrastructures, des organisations, des tournées, des outils pour écouter, ça c'est très important, de la musique enregistrée, que ce soit sous forme audio ou sous forme vidéo. Et ces outils, ils vont du smartphone à l'ordinateur, et bien sûr, ce qui permet d'emmener tout ça, des smartphones aux ordinateurs, c'est les infrastructures du web. Donc, on va dire ça autrement. Depuis plusieurs années, en fait, il y a beaucoup de festivals de rock, en particulier, ils ont été pionniers là-dedans, qui se sont consacrés à demander aux consommateurs, au public, disons, de faire du covoiturage pour se rendre aux événements, qui leur ont proposé de la nourriture, souvent bio, qui venait du coin, avec des toilettes sèches, des gobelets qui sont consignés aux buvettes, et ainsi de suite. Mais en faisant ça, on a totalement négligé l'aspect production. Or, justement, si on prend rien que le rock, un des éléments basiques du rock en France ou dans le monde, c'est le tourbus, c'est-à-dire que la plupart des artistes, ils tournent dans des bus. Et donc, en gros, si on accumule, on fait l'addition de tous les bus qui tournent tous les jours quand il y a des concerts hors pandémie, ça veut dire que tous les jours, il y a 10 fois une tournée de U2 ou là où il y a 40 bus et 40 camions sans arrêt. Donc, il y a ça. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est uniquement, disons, l'aspect carbone, disons. Il y en aurait bien d'autres. Et puis, évidemment, si on prend maintenant l'aspect de la musique enregistrée, de la consommation de musique et de la production de musique en ligne, par exemple, pour écouter de la musique en streaming, il faut des millions de kilomètres de câbles, des infrastructures du web monumentales, des data centers qui sont refroidis avec avec du charbon parce qu'ils chauffent, et dans la graduation des émetteurs à gaz à effet de serre, il y a la Chine qui travaille en grande partie pour le monde occidental, les USA, puis après il y a le web. Autrement dit, c'est pas en grattant une guitare qu'on fait des problèmes, mais les infrastructures de la musique, celles de la musique live et celles de la musique enregistrée, elles sont pas réductibles à elles-mêmes. Souvent, les gens dans le milieu parlent des écosystèmes, de l'écosystème musical, comme si justement un écosystème, c'est quelque chose de fermé, qui suffit à lui-même, mais pas du tout. Un écosystème, c'est pas ça. C'est un système qui est toujours perturbé par d'autres systèmes, par d'autres interactions. Donc, pour reprendre l'exemple du streaming, on ne peut pas penser la question du streaming, de la rétribution des auteurs, des formes de consommation, sans penser à toutes les infrastructures du web, elles qui ne sont pas pensées comme étant la musique et qui permettent et qui assurent ce fonctionnement-là. Donc, la réponse est bien sûr, en fait. La production et la consommation musicale, la production aussi, sont exactement comme toutes les autres activités. Il n'y a pas de différence.
Le rôle social, en termes de défi écologique, qui est souvent attribué aux musiciens, c'est un peu celui d'exemple ou de lanceur d'alerte. Il y a des gens qui essaient d'aller plus loin que ça.
Alors cette idée, disons, de comment dire que l'art, donc en particulier donc toutes sortes de musiciens, que ce soit des musiciens classiques, de musique plutôt contemporaine, de jazz, de rock, de world music, ainsi de suite, à tous les niveaux, c'est-à-dire des artistes à faible notoriété comme des artistes à très forte notoriété, voire à notoriété internationale. Cette idée-là, donc, que les artistes alertent la population, ou même que leurs œuvres, leurs chansons, leurs partitions éveillent les consciences, a été très fort dans les 20 dernières années. Hein. Par exemple, en 2007, il y a eu les grands concerts pour le climat dans le monde anglo-américain, Live Earth, dans lequel il y avait toute une série de tournées, de spectacles qui étaient broadcastés, qui passaient à la télé, sur le web, pour alerter les gens sur le climat. Ce qui pose problème aujourd'hui un petit peu avec ça, c'est de lancer des alertes, d'éduquer les gens, de les sensibiliser, alors que même que l'humanité entière est au courant. Après tout, avant la pandémie, quand les mouvements de jeunes pour le climat et Greta Thunberg lançaient des appels pour des manifestations pour la défense du climat, pour que les institutions internationales, que les entreprises et les États s'agitent enfin, réagissent enfin à la hauteur des enjeux. Il y avait des millions d'ados dans les rues, il y en avait en Malaisie, au Ghana, donc pas seulement dans les pays développés. Et donc, ça semble un peu étrange quand même de continuer à raconter que les artistes doivent alerter sur les périls, alors que le monde social le sait bien. Là, on pourrait peut-être raisonner à l'envers, avant de parler d'un autre aspect, c'est ça semble d'autant plus bizarre d'alerter alors même qu'on prend peu conscience de l'impact matériel des arts et alors même justement que l'humanité entière comprend bien ce qui se passe. Alors bien sûr, les gens ne savent pas forcément ce que c'est que le cycle du carbone, ne comprennent pas forcément les phénomènes physiques qui amènent à la destruction de la Terre, mais tout le monde est parfaitement au courant de ce qui se passe, et en particulier les jeunes générations. Alors maintenant, je voudrais dire deux autres choses sur le rôle des artistes. La première, c'est dans le monde anglo-américain, là encore, hein, il y a une organisation qui est née il y a quelques années, qui s'appelle Music Declared Emergency, donc la musique alerte, hein, c'est ça que ça veut dire à peu près. Et dans cette organisation, il y a à la fois des mammouths, hein, des grands groupes planétaires comme Massive Attack, comme Coldplay, des groupes comme ça. Hein. Il y a des grandes majors du disque, des trusts internationaux à la fois du disque, de vidéo, du cinéma, type Warner. Et puis, il y a aussi vraiment toutes les composantes du métier, les gens qui s'occupent de faire tourner les artistes, les bookers, les tourneurs, les salles de spectacle, les festivals, beaucoup d'artistes à faible notoriété, des studios d'enregistrement, etc. Donc, en fait, il y a tout ce que dans le monde anglo-américain, on appelle l'industrie musicale. Et dans cette organisation, Music Declares Emergency, ils se mobilisent pour qu'il y ait une action pour le climat. Donc, ils sont pas dans l'idée qu'il faut alerter sur le climat, mais qu'il faut mobilisés et surtout ils déclarent que eux-mêmes ils sont conscients de l'impact de l'industrie musicale et par exemple le groupe Massive Attack a demandé au Tyndall Center qui est un des centres de recherche sur l'environnement les plus fameux et les plus légitimes en Grande-Bretagne de faire une étude sur l'impact carbone de ces tournées. Autrement dit, il y a une partie du monde musical, en particulier du côté des musiques populaires, qui a fait le virage déjà, qui a pris conscience du fait qu'il fallait non pas dire aux gens de prendre conscience du climat, mais que l'industrie musicale elle-même, les pratiques musicales, et donc, comme je le disais tout à l'heure, y compris du côté de la production, devaient être transformées. Maintenant, je voudrais dire une deuxième chose qui me paraît aussi importante sur le rôle social des artistes ou le rôle des artistes. Et ça reviendra à la discussion qu'on avait au début sur qu'est-ce que c'est un défi, qu'est-ce que sont les défis écologiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la production musicale, dans la consommation musicale, il y a vraiment quelque chose qui est très fort, très, comment dire, qui est permanent, qui est l'idée, qui est aussi supportée par du marketing, par la presse, et puis aussi par le goût des personnes, qu'il faut toujours avoir du nouveau. du renouvellement des jeunes, de l'émergence, comme on dit dans le jargon professionnel en France. Autrement dit, le renouvellement constant des programmations, le rythme de l'actu comme ça qui scande la vie musicale, et tout ça, c'est abondé par des clips, par des campagnes, par des, et donc c'est aussi une pression sur les artistes, mais ça veut dire que ça répand dans le monde social, au-delà même des œuvres elles-mêmes, de la musique elle-même, l'idée finalement qu'on a toujours besoin de nouveau, qu'on a toujours besoin de faire la grande lessive, qu'il faut toujours tout renouveler, que d'année en année, il faut toujours avoir des choses différentes, des choses qu'on connaissait pas. Et donc ça, le problème, c'est que ça, c'est une des composantes même des questions auxquelles on doit faire face, c'est-à-dire ce besoin de renouvellement perpétuel n'est pas que dans la musique, il est aussi dans la consommation des vêtements, de la nourriture, des voitures, ainsi de suite. Mais d'une certaine façon, l'idée qu'il faut toujours du nouveau, elle est produite, elle est soutenue par l'art, en fait. Et donc, les défis écologiques auxquels le monde artistique doit se confronter aussi, c'est ce défi-là. Alors moi, je ne veux pas dire qu'on doit aller à de la sobriété en matière de production musicale, parce que ça n'a pas tellement de sens, on ne sait pas très bien dire ce que veut dire sobriété, souvent quand le terme est employé. Mais ce qui est certain, c'est que le monde artistique, depuis, disons, les débuts de la révolution industrielle, depuis que le registre de la nouveauté et de la modernité se sont imposés, c'est un des puissants, disons, agents qui rend cette idée-là partout ailleurs naturelle. Et donc, il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là. Je pense que c'est extrêmement important.
François Ribac, vous nous avez parlé de cette association, cette structure anglo-américaine qui agit au niveau de la musique pour l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, est-ce qu'il y a d'autres exemples sur lesquels vous avez peut-être enquêté pour faire justement de l'écologie en musique, des exemples qui vous viennent en tête là?
Alors bon, des structures, des assos d'artistes, par exemple en France, il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'initiatives, en particulier dans le monde français, pendant la pandémie, il y a eu des initiatives du côté de musiciens de jazz. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a des multitudes d'artistes, de festivals, de lieux, de réseaux, de professionnels. Par exemple, dans le monde du spectacle, il y a un nouveau réseau qui s'appelle Arviva, qui vient d'être créé. Il y a énormément de gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui se mettent qui essaient de changer les choses, de toute façon. Ça c'est une première chose. Ensuite, il n'y a pas uniquement, parce que c'est souvent là-dessus qu'on se concentre, encore une fois, l'aspect matériel qui compte. Alors, parce que ça pose aussi un problème qui est le problème suivant. C'est-à-dire, quand on se concentre sur la question de l'impact carbone des activités, donc par exemple, il y a une structure qui est importante en France qui s'appelle le Shift Project, qui a beaucoup travaillé donc d'une façon extrêmement sérieuse sur les impacts matériels des activités depuis quelques années. Donc il y a une équipe de gens vraiment remarquables qui s'est intéressée à la façon dont on pouvait décarboner la culture, comme ils disent. Bon, mais la question qui se pose, c'est que quand on se concentre surtout sur le climat et donc sur la question carbone, qui est bien sûr est capitale, on néglige toute une série d'autres facteurs. Alors par exemple, on oublie toute la pollution qui est liée aux appareils électroniques, à la fois par exemple scéniques ou qui sont possédés par les consommateurs, tout simplement les smartphones, les appareils électroniques, les ordinateurs, et pour lesquels on a besoin de minerais qui sont produits souvent dans des mines où travaillent des enfants dans des conditions atroces en Afrique. On oublie que tous ces appareils et ces outils finissent rapidement à cause de l'obsolescence programmée dans des poubelles qui elles-mêmes polluent des environnements en Asie et là encore en Afrique et ainsi de suite. Et surtout, quand on se concentre sur le carbone, On laisse à penser que transition écologique égale transition énergétique, autrement dit, suffirait de changer de chaudière pour que tout aille bien. Or, justement, le carbone, c'est pas le seul problème. Il y a les pollutions. On est en pleine pandémie. Elle est en grande partie liée aux questions de déforestation. Et puis surtout, c'est pas en changeant uniquement de chaudière que les choses peuvent se changer. Pour des tas de raisons, peut-être qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais surtout par le fait que on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, en fait, une transition énergétique. Les énergies s'ajoutent toujours aux autres. Donc c'est moins sur l'énergie seulement qu'il faut agir. Bien sûr, il faut arrêter d'extraire des énergies fossiles, il faut les laisser dans la terre, que sur les pratiques elles-mêmes qu'il faut envisager. Alors, pourquoi je dis tout ça? Pour dire que donc moi, ce que j'ai regardé dans mes enquêtes, j'ai fait des enquêtes en France et en Allemagne, j'ai regardé comment des institutions, donc par exemple des grands théâtres ou des salles de spectacle, des groupements de salles de spectacle et des équipes artistiques de toute nature, connues ou inconnues, localisées, qui se déplaçaient dans des périmètres plus larges, comment est-ce qu'elles réfléchissaient aux questions écologiques. Et donc moi, je ne me suis pas intéressé de savoir si elles faisaient ça bien ou pas, mais plutôt qu'est-ce qu'elles appelaient écologie. Alors par exemple, j'ai vu des institutions comme la Maison du Culture du Monde à Berlin, qui n'est pas uniquement sur la musique, parce qu'ils s'occupent aussi d'art, de théâtre, et dont la vocation originelle était en gros de montrer aux Allemands la culture en dehors de l'Occident, là, comment justement face aux défis écologiques, ils ont mis en débat public en invitant des artistes, des scientifiques, y compris en travaillant avec des gens qui habitaient dans la ville, ils ont mis en débat qu'est-ce que c'était justement une pratique, qu'est-ce qu'une institution publique dédiée à la culture pouvait et devait faire dans la situation où on est aujourd'hui. J'ai aussi vu, par exemple, des collectifs d'artistes installés dans des régions dans lesquelles il y en a une partie d'entre eux. Donc, ils sont installés dans des lieux. Une équipe artistique peut se joindre à ceux qui existent déjà, donc ils travaillent ensemble, ils mutualisent en grande partie leurs ressources, ils se produisent régulièrement dans l'endroit, même s'ils peuvent faire des tournées. Je me suis rendu compte que, par exemple, dans certains de ces lieux, il y avait des gens qui étaient bien insérés dans le monde professionnel artistique, bien reconnus, qui par ailleurs préféraient garder un emploi à côté pour justement pas être pris dans cette logique de renouvellement perpétuel, de course aux subventions, à la nouveauté, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que le monde artistique, au sens où je l'ai entendu là, hein, pas uniquement les artistes, réagit d'une façon extrêmement variée, justement, aux défis auxquels on est confronté, et que ça touche pas uniquement donc le contenu de ce que les artistes disent au public, transmettent au public, ou la question des impacts matériels de la production, mais aussi la façon même dont le monde artistique peut s'organiser, peut se repenser, peut éventuellement s'écarter de la professionnalisation extrême, etc. Et donc il y a énormément de gens qui, des laboratoires qui réfléchissent aux différentes questions qui sont liées donc aux défis écologiques, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Après, je pourrais aussi citer, par exemple, à Berlin, la Ufa Fabrik, qui est un ancien quartier d'entrepôt de cinéma qui a été occupé par des squatteurs dans la fin des années 70, qui est devenu c'est un grand quartier de spectacle dans lequel il y a des salles de concert, des salles de théâtre, du théâtre pour enfants. Enfin, c'est vraiment une sorte de petit quartier de spectacle qui marche toute l'année, y compris l'été, et dans lequel, depuis 30 ans, ils ont expérimenté toute une série de systèmes avec des toits végétalisés, des capteurs solaires, de l'eau qui circule et qui permet de faire de l'air conditionné l'été, ce qui fait très chaud à Berlin. Enfin bon, une sorte d'expérimentation extrêmement raffinée et produite localement pour qu'en gros que les bâtiments soient absolument ni polluants et qu'ils soient bénéficiaires en énergie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font à beaucoup d'endroits. Rêvons au futur, rêvons ensemble. We'll be right back.
François Reybach, dernière question. François Reybach, on l'a dit, vous êtes sociologue, mais aussi compositeur de théâtre musical. Et on peut dire que vous avez aussi mis en application peut-être vos idées au travers de spectacles. On peut parler notamment peut-être du grand orchestre de la transition.
Alors effectivement, ça c'était dans le cadre d'un projet de recherche de 3 ans que j'ai coordonné. Une équipe en France, puis quelques britanniques et allemands. Donc en fait, on a fait un projet qui s'appelait donc le Grand Orchestre de la Transition à Dijon, l'endroit où j'enseigne et j'habite, où j'habitais à l'époque. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à toute une série de collectifs, hein, pas d'individus, des collectifs, donc des groupes de théâtre étudiants, des groupes d'étudiants de mon université à l'époque et de l'École des Beaux-Arts de Dijon, mais aussi un groupe de patients de l'hôpital psychiatrique de la ville qui font régulièrement de l'art-thérapie, qui travaillent avec des musicothérapeutes, avec des artistes, avec des plasticiennes. On leur a proposé qu'avec des outils donc de musique, de théâtre musical, de théâtre tout court, de vidéo, donc des outils artistiques et en particulier scéniques, que chaque collectif, donc en travaillant avec des institutions et des acteurs culturels locaux, donc moi je travaille aussi comme compositeur dans ce projet-là, qu'on imagine notre vie dans 20 ans, le projet date de 2019, donc en 2039 dans la ville, et même pas dans la ville en général, mais dans les quartiers dans lesquels soit on travaillait, les étudiants, soit on se rendait pour des soins, soit on vivait, donc dans 3 quartiers de la ville. Et on a imaginé ça, on a imaginé le son de la ville, on a imaginé la configuration urbaine, comment est-ce qu'on s'adaptait au manque d'eau, et ainsi de suite, en essayant un peu de voir comment des habitants d'une ville pouvaient donc utiliser les moyens artistiques pour imaginer leur propre futur et aussi pour passer un peu au-delà de l'idée qu'il suffirait simplement de changer de chaudière, je dirais. Et donc ce qui est intéressant, je pense, dans le résultat, où c'était une aventure humaine vraiment très chouette, on était près 90, et que quand on a présenté le projet dans un festival local qui s'appelle Itinéraire Singulier, on a eu beaucoup, beaucoup de monde. Ce qui, à mon avis, était vraiment intéressant, c'est que on a vu comment la dimension, disons, matérielle, environnementale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'eau, quelle est la structure urbanistique, est-ce que les transports en commun sont développés, etc., c'est mélangé avec le rêve, l'imaginaire, la description de nouvelles façons d'être ensemble, des formes de résilience, des rencontres avec le monde naturel. Et c'était une grande leçon justement pour moi de voir à quel point, les questions à la fois sociales et environnementales se mélangeaient avec l'imaginaire, avec le fait d'extrapoler ce que pouvait être un autre monde, quoi. Et donc ça, pour moi, je pense que c'était vraiment un des aspects le plus intéressant dans ce projet, qui par ailleurs, et comme je l'ai déjà dit, était humainement extra, quoi, qui était vraiment très très passionnant.
On était par téléphone avec François Reybach, compositeur de théâtre musical et sociologue. Il est professeur de sociologie de la culture et de l'environnement à Burgundy School of Business à Dijon, Lyon et Paris. Et il était l'invité le 14 décembre dernier d'une conférence qui se passait à l'aéronef à Lille sur le thème « La musique face aux défis écologiques ».